Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Ravi de vous retrouver pour cette troisième et dernière journée des 5 ans du CIPCA. Nous sommes toujours ici au Grand Palais, dans le 8e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui encore, nous allons recevoir de nombreux invités ici dans ce studio. Et je suis ravi de recevoir Jean-Pierre Lévesque. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes architecte associé, président de Brenac et Gonzalez et associé. Merci d'être présent sur ce plateau et de gentiment répondre à nos questions. Déjà, une première question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce salon?
Merci à vous pour cette invitation.
Ah, mais vous êtes le bienvenu.
Ce que je pense de ce salon, je pense que c'est une très bonne initiative et pour le coup, il s'agit de marquer au travers de ce salon l'engagement de tous les acteurs d'immobilier autour de la question du changement climatique et de sa nécessaire adaptation. Et je trouve que le lieu emblématique du Grand Palais, sa position centrale, donne toute son ampleur symbolique à cet événement.
Alors, Brenac et Gonzalez défendent une approche pragmatique, hein, le bon matériau au bon endroit, selon l'usage, le contexte et la sobriété qui est recherchée. Et puis l'agence qui met en avant les structures hybrides, la préfabrication notamment, l'adaptabilité et la réhabilitation de l'existant. A-t-on trop longtemps conçu, d'après vous, les bâtiments pour l'hiver en sous-estimant complètement justement le confort d'été? Et évidemment, on ne peut faire qu'allusion aux canicules qu'on a vécues cet été et il va encore faire chaud ce week-end.
Alors c'est une réalité et d'ailleurs historiquement l'évolution de toutes les réglementations thermiques se sont tout d'abord focalisées suite aux différents chocs énergétiques sur la dépense hivernale et donc le but n'était pas tant le confort que la réduction de la dépense énergétique. Donc 74, premier choc pétrolier, bref, voilà. Et il a fallu quand même attendre la RE2020 pour que enfin soit pris en compte la question du confort d'été, faisant le constat que effectivement c'était devenu quelque chose d'absolument incontournable, y compris dans la dépense énergétique. Donc oui, effectivement, c'est une prise de conscience tardive. Mais voilà, on va relever le défi.
Ben oui, il faut. Et puis, on va se rappeler ce chiffre qui a été publié par l'ADEME, qu'on a reçu ici même d'ailleurs sur ce plateau. Le nombre cumulé de jours de vagues de chaleur en France a doublé. 71 jours entre 2006 et 2015 contre 144 jours entre 2016 et 2025. Est-ce que le secteur du bâtiment, malgré cette prise de conscience, continue aujourd'hui tout à continuer à construire finalement pour le climat d'hiver ? En pensant exclusivement au climat d'hiver, où ça y est, c'est fini, on a passé un step.
Alors, je pense qu'on a vraiment passé un step. Enfin, en tous les cas, le retour pragmatique que l'on peut avoir sur toutes nos opérations, c'est que l'été que nous venons de traverser a été une forte prise de conscience et je n'ai pas un seul projet sur lequel le maître d'ouvrage ne s'est pas reposé la question de l'adaptation des bâtiments en cours de conception à des climats extrêmes. Je pense que oui, non, et je l'espère, c'est un souhait. Je pense que ce que l'on vient de traverser va nous marquer durablement.
De même qu'on a un outil spécifique, par exemple, pour mesurer la performance énergétique, qui est le DPE, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une sorte d'indicateur, finalement, qui soit aussi lisible, justement, pour tout ce qui a trait à la prise en compte de cette période de chaleur l'été et puis, évidemment, l'hiver?
Alors, votre exemple est particulièrement bien choisi, mais j'aurais tendance à dire dans le mauvais sens du terme, parce que le DPE, le problème, c'est que c'est une usine à gaz qui a des conséquences directes sur la valeur des biens et qui, au final, est la somme d'articles sur le sujet est très importante, est extrêmement aléatoire. Ça tient principalement au fait que quand vous rentrez dans le DPE, c'est une usine à gaz qui ne tient pas compte de relevés extrêmement pragmatiques. Ce DPE auparavant prenait en compte les consommations. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le DPE prend en compte la nature des matériaux, etc., etc. Et quand il n'y a pas de source documentaire, eh bien, elle ne peut pas être enseignée. Donc, c'est le pire qui est toujours sûr. Et puis, ce qui échappe au DPE, c'est finalement tout le chantier qui est devant nous, à savoir comment est-ce que finalement des bâtis anciens sont probablement bien plus adaptés que des bâtis qui ont été conçus avec moult sciences. Et donc ça nous renvoie à une forme d'humilité, à une forme d'analyse critique tout à la fois des outils dont on dispose, de la confiance qu'on leur fait et d'une science qui aujourd'hui n'existe pas sur le bâti ancien qui encore une fois remplissait notamment en matière de confort d'été pas mal de bonnes conditions.
Vous n'êtes pas un pro DPE ?
Non, non. Absolument pas. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on a besoin d'indicateurs, on a besoin de tableaux de bord.
C'est évident. La performance énergétique,
voilà.
C'est clair.
Maintenant, dès lors que les tableaux de bord que l'on élabore sont trop éloignés d'une réalité et d'un grand pragmatisme, ça ne veut plus rien dire. On a besoin d'outils qui soient parlants, qui soient directs et qui nous permettent d'avoir de véritables renseignements.
Je le disais en introduction tout à l'heure, vous défendez le bon matériau au bon endroit. Ça veut dire quoi déjà concrètement et comment est-ce qu'on sort finalement aussi des oppositions peut-être un peu simplistes entre le bois, le béton ou l'acier par exemple ?
Eh bien, c'est relativement simple, c'est-à-dire que la matérialité, la physique des matériaux, elle ne ment pas. Et par ailleurs, c'est un catalogue de possibilités qui nous est offert et sur lesquelles il n'y a aucune raison de se priver de la qualité intrinsèque de chaque matériau. Ça, c'est un mantra que l'on répète sans cesse à l'agence. On n'a pas de conscience dogmatique sur l'usage des matériaux.
Il n'y a pas d'a priori.
Il n'y a pas d'a priori. Je pense que de toute façon, on est dans une crise multifactorielle et la réponse, elle sera multi-matériaux. C'est une évidence.
Et c'est pour ça qu'on en vient du coup à des structures qui hybrides, c'est ça ?
Oui, absolument. Des structures hybrides, des planchers béton-bois, des structures métalliques qui sont là pour leur qualité de légèreté, de résistance des matériaux, des structures en béton qui sont là pour leur qualité d'inertie, sont capables de déphasage important dans le temps et on va en avoir besoin également. Plus que jamais, les solutions toutes faites, il faudra les bannir.
Ouais. Donc on en vient à des structures hybrides dont vous parliez. Déjà d'une, est-ce que ces structures-là, elles permettent de réduire de façon conséquente le carbone une fois intégré et puis une fois aussi j'imagine leur complexité et leur mise en œuvre parce que j'imagine que c'est pas forcément simple d'associer différents matériaux.
Non, c'est pas simple, mais ça renvoie à une technique qui, fort heureusement, a le vent en poupe aujourd'hui, qui s'appelle la fabrication hors site, et qui permet une formule gagnant-gagnant, tout à la fois pour le confort des riverains, pour le confort des ouvriers sur le chantier, et puis pour la qualité de la construction. Parce que lorsque l'on fait de la fabrication hors site, ça veut dire qu'on a construit des modules en usine, donc dans un contexte où on a pu produire beaucoup de réflexions, on a pu faire des prototypes, on a pu s'entraîner, on a pu mettre en place des séries, et tout cela est un garant de qualité. Par exemple, sur la préfabrication hors site du béton, vous ne savez peut-être pas, mais le béton bas carbone, sa particularité, c'est que ses temps de séchage sont plus longs que le béton classique. Et lorsque l'on préfabrique hors site, eh bien, l'intérêt, c'est que tout cela s'organise et donc on est moins dépendant du cycle de construction moins contraint. Et donc, ça, la préfabrication du béton, par exemple, permet d'utiliser massivement du béton bas carbone.
Et donc, on arrive à décarboner ou à utiliser en tout cas moins de carbone sur des structures hybrides.
C'est une bonne voie pour aller en ce sens, oui.
Et, certain. Et on y arrive.
Et on y arrive, oui, on y arrive à un instant T, c'est quelque chose d'avéré. Enfin, nous-mêmes, voilà, on a l'expérience d'un collège en cours de construction pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine, où effectivement, tout à la fois, nous utilisons des structures préfabriquées en béton bas carbone. Nous utilisons également des structures bois, des façades à ossature bois. Et tout cela permet justement effectivement de combiner le meilleur des produits décarbonés aujourd'hui disponibles.
Alors c'est bien de parler de l'exemple de ce collège, vous parlez de préfabriqué. La préfabrication justement, elle permet aussi de limiter les délais, j'imagine forcément, et puis les déchets. Ça, c'est important. Est-ce qu'elle est désormais prête, cette préfabrication, finalement, à passer à l'échelle? Et d'ailleurs, c'est le thème de ce salon. Hein. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle?
Alors, elle s'organise, ça, c'est certain. Elle s'organise. Elle existait, elle a toujours existé. Mais une chose est certaine, c'est que c'est un secteur en grand développement. Encore une fois, l'intérêt est majeur pour la ville, pour la construction. Un chantier dans lequel la préfabrication et la construction hors site est massive, c'est un chantier qui effectivement va plus vite. Alors la durée complète, y compris fabrication, elle est à peu près équivalente, mais l'intervention sur site, elle est plus courte, indéniablement. Elle ne se fait pas avec les mêmes outils, elle ne se fait pas avec les mêmes nuisances pour les riverains. Et ça, c'est fondamental, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ville, c'est un système en perpétuelle mutation. Une ville sans chantier, une ville sans grue, c'est une ville qui ne vit plus. Et ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est justement la qualité de vie au quotidien. Et pour reprendre l'exemple de ce collège d'Anière, eh bien voilà, il prend place face à une opération de logement fraîchement livrée sur plus de 150 mètres de long. Décemment, nous n'allions pas imposer aux nouveaux occupants un chantier pénible, bruyant, pendant une durée aussi longue.
Ça fait partie de la réflexion en amont, ça aussi.
Absolument, indéniablement. La question de l'acceptabilité ce que l'on construit est fondamentale. Quand on construit, on a un maître d'ouvrage, mais quand on construit en site urbain, on ne construit pas seulement pour soi, on construit aussi pour la qualité de la ville, pour les riverains. Ici, d'emblée, eh bien, ça se passe mal. L'acceptabilité du bâtiment, son avènement, voilà, ce sera moins bien accueilli.
J'ai presque envie de dire qu'on construit aussi avec l'existant, et l'existant qui, la population qui est déjà là, fait partie aussi quelque part de l'existant. Donc il faut évidemment les prendre en considération, quoi.
C'est une évidence. Et d'ailleurs, la question de l'existant et sa rénovation est au cœur de toutes nos réflexions à l'agence. Parce qu'évidemment, c'est aujourd'hui une banalité de le dire, mais la majeure partie, 80-90% de la ville de demain est aujourd'hui construite. Et d'ailleurs, c'est peut-être le grand oublié de la transition ou de la transformation énergétique, parce que le grand chantier à venir, c'est celui-ci. Et c'est pas la construction neuve.
Comment est-ce que vous vérifiez qu'un bâtiment confortable sur le papier le reste dans le temps et finalement réellement une fois qu'il est occupé?
Alors, il y a depuis assez récemment une mission complémentaire de maîtrise d'œuvre qui commence à voir le jour, qui est la commission, qui est la mission commissionnement. Et la mission commissionnement, elle consiste justement à mettre en place un suivi et un accompagnement des utilisateurs, tout à la fois dans la prise en charge du bâtiment et dans la vérification des performances imaginées. D'accord. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui...
fonctionne comment?
Alors c'est très simple, c'est qu'il y a un intervenant de la maîtrise d'œuvre qui tout à la fois a suivi les études et s'est assuré pendant le temps des études que tous les dispositifs étaient mis en place pour une bonne prise en charge du bâtiment, une bonne maintenance du bâtiment. à vérifier avec le bureau d'études thermiques que tous les dispositifs étaient mis en place pour atteindre les objectifs, et puis qui ensuite va poursuivre sa mission, va accompagner les utilisateurs dans la prise en charge du bâtiment, et qui, dans une bonne prise en charge du bâtiment qu'il garantit, va vérifier que les performances sont au rendez-vous. Et ça, c'est fondamental parce que, en fait, ce dont on se rend compte, malgré tout, et sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit, c'est qu'il y a fondamentalement une césure qui s'opère au moment de la livraison d'un bâtiment. Okay. C'est-à-dire que, OK, on va remettre un DOE, un dossier des ouvrages exécutés, qui, dans le meilleur des cas, sera sur la tablette du mainteneur, mais qui, dans la plupart des cas, va finir dans la cave de l'établissement. Et il y a une rupture de charge, en quelque sorte, entre la conception, la réalisation et la prise en charge du bâtiment. Alors qu'en définitive, ça devrait être une continuité absolue. Oui. Et si on ne connaît pas l'histoire des systèmes, si on ne sait pas comment ils fonctionnent, si on n'a pas été formé pour ça, et s'il n'y a pas eu ce passage de relais, eh bien, les systèmes sont mal exploités. Le bâtiment est mal utilisé et donc la performance, elle n'est pas au rendez-vous. Donc ce qui est intéressant dans cette mission, c'est ce duo en quelque sorte entre garantie sur la passation de relais de façon à s'assurer que le bâtiment est bien utilisé et dans des conditions de bonne utilisation, effectivement, vérifier que la performance est au rendez-vous.
Une toute dernière question, et je vous remercie évidemment de nous avoir rejoints sur ce plateau. Quel principe de conception devrait devenir finalement non négociable face aux étés comme ça de grosse chaleur qui vont forcément se répéter parce que c'est tout sauf une exception ce qui se passe aujourd'hui et cette année?
Alors, le problème que nous avons en France, c'est que nous avons tendance à raisonner à une échelle macro, à prendre des décisions de haut, et puis justement à imposer systématiquement de nouvelles normes, imposer systématiquement des choses. Voilà, on fait comme ça.
Il n'y a pas beaucoup de normes en France, faut arrêter.
Non, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Je me trompe de pays, sans doute. Je crois plus à l'intelligence collective et au fait que chaque situation est particulière. Par contre, oui, effectivement, on peut imaginer que aujourd'hui, la question du confort des utilisateurs, la question du confort d'été doit être prise en compte. Maintenant, de là à le graver dans le marbre, vous savez, le problème de tout ce qu'on grave dans le marbre, c'est que le lendemain, on le remet en cause. Moi, je pense qu'en matière de politique énergétique, en matière de politique climatique, ce dont on a besoin, c'est de continuité. Donc, fixons-nous des objectifs macro et puis trouvons de la continuité, de la persévérance, de l'assiduité dans nos prises de décision.
Merci beaucoup Jean-Pierre Lévesque d'être
merci
venu
à vous.
Sur ce plateau. Merci d'avoir gentiment répondu à nos questions.
Très bon salon.
Eh ben, merci à vous. Bonne continuation également sur ce salon. Merci à vous de votre fidélité. Et on va se retrouver toujours dans quelques instants maintenant, toujours sur ce plateau, ici sur Radio Immo et Radio Territoria, pour continuer à vous faire vivre ce salon CIPCA 5e édition. A tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.